Certains personnages sont exactement le reflet de leur époque. C'est le cas du capitaine de frégate Hugues Duroy de Chaumaret, oh, un brave homme, mais d'une telle vanité. Il est entré dans la marine sous l'Ancien Régime, il a émigré sous la Révolution, il a combattu dans les rangs royalistes, et maintenant, à 52 ans, il savoure la présence sur le trône de son bon roi Louis XVIII. L'épisode du bref retour de Napoléon pendant les 100 jours lui est un peu collé de l'urticaire, mais grâce à Waterloo, ça s'est bien fini, le roi est de retour aux Tuileries, tout va pour le mieux et dormez braves gens. En ce mois de juin 1816, à la tête de la frégate La Méduse, M. de Chaumaret croise au large de Madère. En fait, il avait prévu d'y faire une escale, le temps de ravitailler, seulement il s'est un peu trompé, il a manqué l'île. Quand je dis « il a manqué l'île », il passe carrément à 165 km à l'est de Madère. Et maintenant qu'à cela ne tienne, il est bien forcé de mettre le cap sur le pic de Tède, en espérant ne pas manquer Tenerife. Le roi lui a confié une mission d'importance. 4 navires sont à ses ordres. L'excellente frégate La Méduse, la corvette L'Écho qui marche bien aussi, et puis un brick un peu lourd, l'Argus, et une flûte trop lente, la Loire, qui le retardait. 2 vaisseaux, impossibles en vérité. Il se dit, Chaumaret, qu'il a bien fait de les distancer. Allez, bon débarras. Dieu sait cependant que la tâche est rude, car l'équipage, aux yeux du commandant, n'est qu'un ramassis de bonapartistes et de républicains bon teint. Même certains des passagers lui déplaisent. Il plastronne, le commandant du roi de Chaumaret. Il se compte parmi la fine fleur de la royale avec sa noble ascendance et ses belles médailles bien accrochées. Dommage seulement qu'il n'ait pas navigué depuis un quart de siècle, qu'il ne sache plus interpréter la moindre carte marine, que ses officiers le détestent, et qu'il autorise des passagers civils, comme un certain monsieur Richefort, à donner à sa place des ordres à l'équipage. Quelle est donc au juste cette mission dont il se montre si fier? Il s'agit pour lui de mener à bon port la petite population envoyée par le gouvernement de Sa Majesté reprendre possession du Sénégal, ce Sénégal qui était tombé dans l'escarcelle des Anglais à la faveur des guerres napoléoniennes et qui vient d'être rétrocédé à la France. C'est donc une mission politique, assez importante sans doute, en même temps pas vitale. Le seul vrai danger du voyage réside dans le caractère incertain de la côte mauritanienne et notamment dans le fameux banc d'Arguin, un gigantesque banc de sable à fleur d'eau que les cartes de l'époque indiquent très mal. Le seul moyen de l'éviter à coup sûr, c'est de prendre très au large, sitôt repéré le cap blanc, et de réduire l'allure. Ensuite, il suffit de sonder le plus fréquemment possible. Chaumaret sait tout cela, et le 1er juillet, à la tombée du jour, il ordonne de virer au sud-ouest dès qu'il aperçoit le Cap Blanc. En tout cas, ce qu'il croit être le Cap Blanc, parce qu'en fait, ce n'est qu'un gros nuage à l'horizon. En réalité, la frégate et la corvette dans son sillage se trouvent encore bien trop au nord, beaucoup plus au nord que ne le pense le capitaine. Premier sondage à 22 heures, 45 brasses d'eau, tout va bien. À quelques encablures de la Méduse, l'Écho, lui, se méfie davantage et en pleine nuit, la corvette préfère s'éloigner à tribord. Elle envoie même des fusées pour mettre le commandant en garde. Peine perdue, non mais enfin de quoi je me mêle. À 2 heures, on est à 50 brasses de profondeur et ce promontoire là-bas, loin à bâbord dans la nuit, c'est le Cap Blanc, le vrai Cap Blanc. À 4 heures, 60 brasses. À 6 heures, 80 brasses, c'est bon, pense le commandant, le banc d'Arguin est derrière nous, allez, cap au sud. Le soleil s'est levé, la journée sera belle. Il est 14 heures quand un jeune enseigne, inquiet de la couleur un peu trop claire de l'eau, prend sur lui et contre les ordres du commandant de sonder encore une fois. Et là, le fond n'est plus qu'à 16 brasses. Chaumaret a été surpris par l'arrêt de la frégate, alors il a quitté sa cabine, il a grimpé jusqu'au pont de commandement, mais pourquoi toutes ces précautions? Nouveau sondage, 6 brasses, à tribord toutes, cette fois le commandant réagit vite et fort, mais il réagit trop tard. Une grosse secousse, puis 2 autres, plus amorties, la quille de la frégate vient de heurter le sable, la Méduse ne bouge plus du tout. Non seulement la frégate s'est immobilisée contre ce haut fond, mais elle l'a fait au plus mauvais moment possible, c'est-à-dire à marée haute. Maintenant, la mer va descendre et le navire ne sera bientôt plus porté par l'eau. Alors normalement, dans un cas comme celui-là, les officiers, l'équipage, tout le monde fait bloc autour du commandant. Oui, seulement les préjugés sociaux et politiques ne sont pas à sens unique. Et aux yeux de ces jeunes officiers nommés sous la Révolution, entrés dans la marine comme mousse et promus plus ou moins au mérite, le capitaine de Chaumaret n'est qu'un aristocrate de la vieille école, un anti, un ultra, bref, quasiment un ennemi. « Oh, ce gandin-là n'est pas de notre monde !» répète le lieutenant de vaisseau d'Espiot. On essaie tout de même d'alléger le navire. Et dans un premier temps, on met à l'eau toutes les embarcations. Seulement voilà, on découvre qu'elles sont dans un état déplorable et qu'elles prennent l'eau de partout, surtout la chaloupe. Ça promet. Par ailleurs, on démonte tout ce qu'on peut, les mâts, les vergues, les espars, et on amarre tout ça le long du vaisseau. La marée descend, et à mesure que l'eau baisse, la méduse se met à basculer, elle se balance de plus en plus sur sa quille. Cela dit, la coque a l'air de tenir bon, et on ne perd pas tout espoir. Dès la prochaine marée, on devrait pouvoir mener à bien au moins l'évacuation des passagers. Alors qui sont-ils justement ces passagers? Il y a les marins, bien sûr, mais il y a aussi de nombreux hommes de troupe, des fantassins sous les ordres du colonel Schmaltz, et des civils, des commerçants, des fonctionnaires, etc. Bref, la population d'une toute petite colonie, en tout 392 âmes. Dans la nuit, le vent qui se lève secoue la frégate et la repousse un peu plus haut encore sur le sable. Alors on déleste le bâtiment de ses pièces d'artillerie et sous les ordres de Schmaltz, on se met à fabriquer un grand radeau de 20 mètres sur 7, radeau sur lequel sont déchargées les marchandises les plus lourdes. C'est ce radeau-là qui, bientôt chargé différemment, va devenir célèbre. Au petit matin, c'est-à-dire à marée haute et par temps calme, les opérations de déséchouage sont lancées. Alors on jette l'ancre le plus loin possible, on vire les cabestans à force d'hommes, la frégate vacille et se met à pivoter le nez au large, on parvient même à la faire bouger de 200 mètres. Tout n'est pas perdu. Seulement, dès le soir, le gros temps revient, des vagues assez hautes balaient la frégate et cette fois, la quille se casse et la carène commence à faire eau. Là, il va vraiment falloir évacuer, en tout cas dès l'aube prochaine. Eh bien, c'est précisément cette évacuation qui va faire le grand scandale de cette histoire. Dès les premières heures de l'échouage, on avait en secret constitué une liste des personnes qui seraient prises à bord des canots de sauvetage, en commençant par celui du commandant qui était un peu le canot VIP, si j'ose dire. Le moment venu, seules 17 personnes ont décidé de rester sur l'épave. La répartition des autres s'est faite en fonction de la liste. Alors, 27 personnes triées sur le volet sont montées avec le commandant, qui, entre parenthèses, contre tous les principes, abandonne son bâtiment le premier. Comme on dit, les rats quittent le navire. Il y a 3 autres canots de sauvetage, plus une grosse chaloupe dans laquelle on fait monter les sous-officiers, les gens encore présentables, si vous voulez. Ils sont 88, à touche-touche. Seulement, il reste encore près de 160 personnes à évacuer. Essentiellement des hommes de troupe, des matelots, du petit personnel dont une cantinière. Ceux-là, on les fait monter sur le radeau. Alors ils protestent naturellement et il a fallu pour plus de sûreté confisquer les fusils des soldats. Mais dans l'urgence, ils ont fini quand même par s'entasser tant bien que mal sur la machine, comme on l'appelle tout de suite. Or, le plancher s'enfonce à mesure qu'on le charge. Les gens ont bientôt de l'eau jusqu'aux genoux. Pour convaincre les plus récalcitrants, on leur a promis que toutes les embarcations seraient reliées par des filins et que donc la machine serait remorquée en bout de fil. Oui, mais voilà, la grosse chaloupe en forte surcharge est quasiment impossible à manœuvrer. Or, elle dérive dangereusement vers le milieu de la remorque qu'elle risque de couper entre le deuxième et le troisième canot. Le lieutenant Espiot, qui commande cette chaloupe, craint que ça ne la fasse couler tout à fait. Alors il crie pour que les gens du troisième canot laissent aller le filin. « Lâchez !» dit-il, « lâchez !» Méprise fatale. À bord des autres canots. On pense que c'est un ordre général et on lâche toutes les cordes, à commencer par celle qui, en queue de remorque, retenait le grand radeau. À bord de la machine, c'est un seul cri d'indignation. Mais ils ont lâché la corde. Ils abandonnent le radeau. Le canot de tête, celui de M. de Chaumaret, fait alors demi-tour. Il s'approche pour constater la situation. On hésite, on réfléchit. Et puis, l'air de rien, on s'éloigne vers la côte avec les autres. laissant les 157 naufragés du radeau dériver, impuissants, vers le large. Sur la machine, les gens n'ont même pas la place de s'asseoir. Ils doivent rester debout, collés les uns aux autres, et même agrippés entre eux pour ne pas tomber. En effet, le plancher est glissant, il n'y a pas de quille, ce qui fait que le radeau épouse l'angle des vagues. Or, il n'y a pas de bastingage, et nombreux sont ceux qui, tout de suite, tombent à l'eau et se noient. Monsieur de Chaumaret, pendant ce temps-là, n'est pas serré, lui, dans son canot avec ses invités. Il a choisi les meilleurs rameurs pour les accompagner et il ne perd pas de vue le canot du colonel Schmaltz qui marche dans son sillage. Il leur faudra quand même 4 jours d'une navigation exténuante pour atteindre le port de Saint-Louis du Sénégal et pour aborder la corvette L'Écho, à quai depuis 2 jours. Le brick Largus les aura aussi devancés. Sur la machine, il n'y a plus que 136 personnes. La première nuit a été particulièrement éprouvante. À la tombée du jour, un certain nombre de soldats parmi les naufragés se sont mis dans la tête, par désespoir, de s'aborder le radeau, afin de hâter une fin inéluctable. Les marins, qui sont censés commander la machine, le plus gradé est un simple élève. Ces marins s'y opposent et c'est le début d'un affrontement terrible. Les coups de sabre, les coups de hache et de machette pleuvent dans l'obscurité et quand le soleil se lève à l'horizon, la machine est jonchée de cadavres et de blessés. Après 5 jours de marche sur une côte désertique sans un seul point d'eau potable, les occupants des 2 premiers canots, à bout de force, brûlés par le soleil, plusieurs sont d'ailleurs déjà morts d'insolation, ont été capturés par les indigènes d'une caravane maure. Ils sont dévalisés de leurs maigres richesses, mais au moins on leur a donné à boire. Après 2 jours d'une captivité sévère à l'intérieur des terres, ils sont récupérés par une autre caravane sous la houlette d'un chef impressionnant. En fait, il s'agissait d'un officier déguisé en mort pour venir leur porter secours. Les rescapés pleurent de joie. Bref, ils sont sauvés. Au large, sur la machine, il n'y a plus que 75 personnes. Ces rescapés ont toujours de l'eau jusqu'aux genoux, parfois jusqu'à la taille. La peau de leurs jambes, complètement détrempée, est devenue rouge violacée. Du moins, ça permet à leur corps de s'hydrater, et malgré le soleil tropical, ils souffrent un peu moins peut-être de la soif. Mais c'est la faim qui les torture. Parce qu'ils ont beau capturer des poissons volants, cette manne se révèle insuffisante. Cruellement insuffisante, alors on se met à ronger des cordes, on mâche des morceaux de chapeau, et puis, vers le 4e ou le 5e jour, certains, plus hardis ou moins dignes, franchissent le pas. Après tout, il y a des cadavres qui sont là, qui jonchent la machine. Ces cadavres sont comestibles. Tenaillés par la honte et par la peur de ce qu'ils s'apprêtent à faire, certains sortent donc leurs couteaux. Ils transgressent le tabou. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Loin de là, le lieutenant Espiot avait réussi à mener sa chaloupe surchargée jusqu'à une plage au nord du Sénégal. 65 hommes en débarquent. Une 20aine restent à bord. Les naufragés se mettent en route vers le sud à travers des dunes écrasées de soleil. Ils ont la langue enflée par une soif épouvantable. Certains iront jusqu'à s'entailler le bout des doigts pour boire un peu de leur propre sang, quand ils ne boivent pas d'ailleurs des liquides plus répugnants. Plus que 40 âmes sur la machine. Le stock de nourriture se renouvelle à une fréquence effrayante. En revanche, c'est la boisson qui va bientôt manquer. Les rations de vin, c'est le seul liquide potable à bord, sont encore diminuées. Les plus valides se réunissent autour du petit mât au centre du radeau. Et là, ils vont tenir le plus cynique des conseils. Bah, puisque de toute façon les blessés n'ont aucune chance de s'en sortir, est-ce qu'il ne conviendrait pas... On abrégerait certaines souffrances. On prolongerait d'autant la survie des autres. À Saint-Louis du Sénégal, M. de Chaumaret tente de chasser ses idées noires. On a trouvé une teinture indigo du plus bel effet. Ah, il va en envoyer un échantillon au ministre. Ah, au fait, le brick vient d'être envoyé dans la direction de l'épave. Sa mission explicite est de sauver 3 barils contenant 90 000 francs en pièces d'or et d'argent. Ils ne sont plus que 15 sur la machine. 15 sur les 157 qui étaient là au départ. Ils ont surélevé le milieu du radeau pour ne plus marcher dans l'eau, moyennant quoi ils ont encore plus soif. Alors ils ont fabriqué une sorte de tente autour du mât où ils essaient de s'abriter un peu du soleil, un soleil terrible. Au 12e jour de dérive, certains d'entre eux, avec des matériaux démontés à une extrémité, vont même fabriquer un radeau beaucoup plus petit, donc beaucoup plus maniable. Ils espèrent ainsi regagner la côte. À peine mise à l'eau, cette chaloupe improvisée coule à pic. Et puis, le 13e jour, nous sommes là le 17 juillet, enfin les rescapés aperçoivent dans le creux d'une vague une petite voile à l'horizon. Oh, ça les foudroie. D'un seul coup, leurs forces sont décuplées. On hurle, on rit. On détord les anneaux d'une barrique pour en faire des hampes au bout desquelles on agite des guenilles. Mais horreur, horreur! Le navire ne les repère pas. Il continue sur son erre. Il disparaît à l'horizon. Sur la machine, les survivants connaissent la pire des dépressions. Ils s'allongent en randonnion sous leur bout de toile et ils attendent la mort. Le seul qui refuse de se coucher s'appelle Courtade. Il est maître canonnier. Et 2 heures plus tard, c'est lui qui va repérer à nouveau la voilure du même vaisseau. Il s'agit tout simplement du brick Largus en mission de repérage. Les 15 hommes n'ont plus du tout la force de pleurer, seulement cette fois, ils sont sauvés. En France, les récits de ces 15 hommes et des autres, largement répercutés par la presse, et notamment par le très critique journal des débats, ces récits vont provoquer un sentiment mêlé de compassion, d'horreur, et surtout de colère de la population. Le capitaine du roi de Chaumaret devient en quelque sorte l'ennemi public numéro un, et naturellement, les adversaires de la monarchie restaurée en font le symbole de tout ce régime. Presque étonné d'un tel déchaînement, le vieux marin vaincu acceptera dignement d'être jugé par ses pairs. Alors on lui reproche non seulement l'échouage de la Méduse, mais les conditions de son évacuation et de son abandon, ainsi que l'abandon du radeau. Une cour spéciale se réunit en mars 1817 sur un vaisseau amiral mouillé en rade de Rochefort, la même d'où 9 mois plus tôt partait vaillamment la petite flotte. La sentence est sévère, quoique équilibrée. Chaumaret est dégradé, privé de ses décorations, rayé des cadres de la marine et condamné à 3 années d'emprisonnement qu'il effectuera au fort de Ham. C'est un homme perdu dont le propre fils finira par se suicider. L'histoire de la Méduse peut s'ajouter maintenant à la longue liste des naufrages en mer. Reste le chef-d'œuvre du peintre Géricault, établi dans le feu de l'indignation générale et après une enquête approfondie, soucieuse du plus grand réalisme. La toile est exposée au salon de 1819 au Louvre. Le roi Louis XVIII apprécie sa maîtrise. Il s'approche du jeune maître et lui lance « Voilà, monsieur Géricault, un naufrage qui ne fera pas celui de l'artiste qui l'a peint. » Certes, sire, mais en revanche, il a bien failli faire celui d'un régime dont les principes et la philosophie, d'une certaine façon, n'avaient rien fait pour l'empêcher.